messieurs, bienvenue à cette nouvelle épisode, j'allais dire capsule, mais c'est pas une capsule pantoute, c'est un épisode mensuel des critiques de Yugi. Et non seulement c'est un épisode mensuel, mais c'est l'épisode du 1er janvier 2023. Donc sur ce, on vous souhaite
bonne année.
Merci, Poussin.
Ah, moi j'allais dire de pas vous tromper à mettre 2022 pendant le prochain mois.
Non, ça va arriver pendant encore au moins jusqu'à mi-février facile.
Ça va arriver jusqu'en 2024.
Donc épisode nouvel an, épisode coup de cœur. Saison 1, on l'avait présenté vraiment beaucoup en retard. Cette année, on le présente aujourd'hui, 1er janvier, jour de la nouvelle année 2023. Donc, bonne année à tous. Je suis en compagnie de plusieurs personnes aujourd'hui. Vous les connaissez tous. Vous les avez déjà tous entendus au moins une fois. Dont Bedu.
Ben oui, c'est moi ça.
Vous avez entendu plus d'une fois.
Assez régulièrement.
Il est là plus souvent que toi, Yugi.
Peut-être pas, mais en tout cas. Sa conjointe Marie-Yse.
Bonjour. Oh shit.
Hein?
Je comptais mes mailles.
Ah voilà, donc elle comptait ses mailles. Bon, nous sommes également en compagnie de leur petit chromosome, Ali.
Bonsoir.
Voilà. Et vous allez reconnaître également Poussin, qui fait un comeback pour cet épisode-ci.
Bonjour, Yugi.
Qu'on n'a pas vu encore une seule fois de la saison 2, mais c'est pas grave, on l'aime pareil.
C'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité.
De qualité, voilà.
Un poussin de qualité.
C'est très bien dit. Avant de continuer, devinez quoi, je vais vous demander une chose.
Pas le bouton?
Ben oui, le bouton qui se trouve sur la plateforme numérique que vous nous écoutez.
Qui n'est pas lui qu'on a dans le front.
Non, pas lui dans le front. Lui, dans le front, il nous aidera pas, mais bien beaucoup. Quoi qu'il va peut-être aider la population générale, mais nous, ça ne nous aidera pas si vous êtes sur une plateforme numérique. En fait, vous êtes sûrement sur une plateforme numérique présentement, en train de nous écouter. Il y a un petit bouton quelque part qui est écrit « Télécharger » ou un petit bouton qui est écrit « Abonner » ou sinon, c'est des étoiles. Donnez-nous des étoiles. Cliquez sur un des boutons « Télécharger » ou « Abonner ». Vous nous aidez beaucoup. Vous le savez pourquoi, on le répète à chaque fois, mais pour les nouveaux auditeurs qui nous écouteraient présentement, ça nous aide justement à apparaître plus fréquemment dans les barres de recherche lorsque vous cherchez quoi écouter comme podcast. Voilà, c'est dit, je n'en parle plus de l'épisode. Épisode coup de cœur. Avant de commencer à parler de nos coups de cœur, j'aimerais, si on est capable, porter une attention particulière au citron de 2023.
2023?
De 2022.
Ouais.
Moi, je suis déjà en avance, hein.
On sait qu'il va y avoir des affaires poches qui s'en viennent, là, mais on va pas les nommer tout de suite.
Citron 2022. J'en ai quelques-uns sur le bout de ma langue.
J'en ai un.
Exemple, She-Hulk, qui pour moi est un citron.
Le Marvel Cinematic Universe en 2022 était assez ordinaire.
Ça n'a pas été une bonne année.
Il y a eu plusieurs citrons là-dessus. En effet, Bedu, t'en avais un?
Oui, Falling for Christmas.
Oui, absolument. En effet, ce fut un très très bon citron, je suis tout à fait d'accord. Au niveau des jeux, moi je pourrais parler de Gotham Knights, qui est pour moi un citron parce que... Ben, allez écouter la critique que j'ai faite sur Gotham Knights, vous allez savoir pourquoi c'est un citron.
Écoutez-le pas, il vient de dire que c'est pas bon.
Ouais, mais allez l'écouter pareil.
Écoute, je passe des chroniques express à dire des affaires qui sont pas bonnes. Moi, on vous sauve du temps.
Exactement.
Chers auditeurs.
Exactement. Puis si vous nous croyez pas, ben justement, allez écouter la critique. Vous allez savoir pourquoi qu'on dit que c'est un citron. Puis si vous êtes pas d'accord avec nous, vous avez le droit. C'est une opinion. Et si jamais vous voulez partager votre opinion avec nous, on a une page Facebook qui s'appelle...
Ben, la critique de Yugi.
Merveilleux, c'est
mais
simple.
Mais qu'est-ce que c'est, concept?
C'est simple à retenir. Donc, si vous ne nous suivez pas déjà sur la page Facebook, allez immédiatement sur la page Facebook, la critique de Yugi. Faites suivre. Et voilà, votre job est fait. Donc voilà, l'épisode de coup de cœur, on vous parle de ce qu'on a aimé cette année par rapport à des séries télé, des films ou des jeux vidéo ou toute autre chose. Si jamais vous avez un flash soudain de « Ah, oh, c'est vrai, ça, j'ai aimé ça, mais c'est pas un film, c'est pas une série télé, c'est pas un jeu, c'est pas grave, je vais en parler pareil. » Parlez-en pareil. Donc on va commencer. Qui veut commencer? Bedu, commence.
Ok. Je me suis questionné quand même un certain temps à savoir quel était mon coup de cœur de 2022.
Tu m'as même texté d'ailleurs ce matin encore, ça, ne sachant pas quoi parler.
Non, j'avais une mention spéciale pour le départ de Vince McMahon de la WWE.
Oui.
C'est quand même un coup de cœur de l'année. Mais c'est trop niché. Mais il n'y a pas beaucoup de séries télé qui m'ont enthousiasmé.
Oh, enthousiasmé. Ouais.
Que j'ai dit, je veux vraiment écouter, puis j'avais hâte au prochain épisode. Beaucoup de choses qui en 2021 il y avait eu beaucoup de gros stocks qui étaient sortis que j'avais vraiment aimé. Une petite mention spéciale à Only Murders in the Building saison 2 qui est sortie en 2022.
Saison 3 qui s'en vient.
Ouais, ça c'est vraiment bien. Si vous l'avez pas écouté sur Disney Plus, vraiment intéressant.
Mais en vedette Steve Martin.
Martin Short.
C'est
Selena Gomez. Mais mon coup de cœur de 2022 va être The Orville New Horizon. The Orville, ceux qui ne connaissent pas, c'est une série qui était sur Fox. Qui est une inspiration de Star Trek, si on veut.
Ça se voulait au début quasiment comme une satire.
Ça a commencé un peu comme une satire slash parodie. C'est créé par Seth MacFarlane, qu'on connaît pour Family Guy, entre autres.
Je trouvais que ça faisait aussi un peu comme dans une galaxie près de chez nous, genre on aime les films de science-fiction, on aimerait se payer le trip
de le faire. C'est une bonne interprétation. Saison 1 et 2 qui sont passés sur Fox. La saison 3 était en tournage. Il est arrivé de quoi en mars 2020?
On n'en parle pas.
Ça a mis fin et ça a coupé le tournage. Ils ont complété le tournage. Et là, au niveau de la plateforme de diffusion, Fox a retiré. Il s'est retiré, mais les épisodes étaient faits. Donc, ils ont décidé de ne pas le diffuser. Donc, Hulu a pris la balle au bon aux États-Unis pour le diffuser. Nous, ici au Canada, Hulu, on l'a sur Disney+.
Mais donc, anyway, Disney a racheté tout ce qui est Fox de toute façon. Ils ont tout racheté. Ils rachètent tout. Ça revenait sur Disney+.
Ils ont fait une offre pour acheter mes souliers.
Ouais, ils vont racheter Twitter aussi.
Oui, c'est ça. Fait que, c'est ça. Donc, The Orville, la nouvelle saison, plus les saisons avançaient, je trouve que c'est plus sérieux un peu.
Ouais.
Il y a de l'humour, mais on n'est plus dans la satire.
On est vraiment sorti de la satire au cours de la saison 3.
Ouais, une série à part entière. Ce que j'ai aimé de cette série-là, ben là, les épisodes sont beaucoup plus longs. Il y a même des épisodes jusqu'à 1h30. Mmh. C'est quand même. Certains sont un petit peu longs, là, mais la majorité sont vraiment intéressants. On aborde des sujets plus lourds un peu. On parle d'identité de genre, on va parler de la mort, le deuil. Donc, c'était venu chercher des émotions que j'étais comme, ok, ouais, là, tu sais, j'étais un petit peu plus touché, j'ai ri beaucoup.
Ce qui était quand même surprenant pour du Seth MacFarlane.
Ouais, c'est quelque chose qui est pas habituel. Ben, dans certains trucs, oui, là, mais.
Il est vraiment capable de ça aussi, parce qu'on s'entend que Mille façons de mourir au Far West. Il y a quand même quelque chose de très touchant. Je veux dire, quand il fait les voix pour ses personnages, il s'y ajoute toujours un peu épais, un peu... Puis je trouve que quand lui, il est là, au contraire, il fait comme vraiment preuve de quelque chose de tellement grand cœur, de tellement bon, de tellement comme... Ça me tente pas de le faire, mais je le fais, mais je vais te le dire que ça me tente pas de le faire. Fait qu'il est comme s'il y avait deux personnages complètement différents, là... Je trouve.
Mm-hmm.
Mais c'est un bon scénariste, oui, également. Vraiment.
C'est bien écrit. C'est quand même bien joué. Le casting est bon. Ouais. Lui joue le personnage principal. Et c'est ça. Donc, c'est toute la série, l'évolution des personnages. J'ai trouvé qu'en la saison 3, on augmente beaucoup. Il n'y a pas de saison 4 de confirmé encore. J'imagine qu'ils sont en négociation. Mais sérieux, c'est ce qui m'a marqué, je pense, le plus en 2022. Puis les critiques sont bonnes là pour en général là, on a en moyenne à peu près 8 sur 10 là, fait que pour une série télé sur Fox, souvent là c'est au-delà de ce qu'on voit. Donc ceux qui ne l'auront pas vu, tout est disponible sur Disney+, les deux premières saisons et la dernière. Ça vaut la peine d'y jeter un œil, c'est ce qui m'a marqué le plus en 2022.
Ce que je peux rajouter de la série, de ce que j'aime moi, c'est que de plus en plus dans les séries télé, on a de moins en moins de lignes directrices tout au long de la saison. De plus en plus, on fait des saisons de 6, 8, 12 épisodes, des saisons de 24 épisodes, de 20, 22, 24 épisodes, ils en font quasiment plus. Puis quand ils en font, souvent il y a beaucoup d'épisodes qu'on pourrait clairement beaucoup se passer. Qui ne servent pas à grand chose.
Comme dans les animés, quand t'as la journée où est-ce qu'ils vont à la plage pour être tout le monde en bikini.
Exactement. T'sais, c'est du filler plus qu'autre chose. Et je trouve que justement, avec The Orville, qui est la saison 3, c'est quoi? C'est
12 épisodes. 12 ou 14.
Qu'est-ce que j'aime ça? chaque épisode a sa raison d'être et chaque épisode fait avancer l'histoire. Mm. Donc, pour ça, ça te donne plus envie de continuer que si t'écoutes une série puis que tu pognes sur un épisode qui donne absolument rien, t'as comme pas tout de suite envie d'écouter le prochain épisode, tu vas attendre un peu, puis à un moment, c'est vrai, j'avais commencé cette série-là, mais elle a continué. T'sais.
Mais à l'époque de la télé classique du câble, un contrat, c'était 13 épisodes, c'était 13 semaines, fait que là, il y avait 13 ou 26 épisodes sur une année. Maintenant, avec les plateformes de diffusion, si l'auteur... Puis là, le scénariste, il dit, bon, ben moi, mon histoire se passe de là à là, on se rend là, ben ça fait 14 épisodes, ben c'est 14, puis c'est ça. Ça, c'est quand même bien. Je pense qu'il y a moins un effet de remplissage dans plusieurs séries. On a fait le tour du sujet, ça sera 6 épisodes, puis ça sera 6, puis c'est ça.
Voilà. Donc, The Orville, premier coup de cœur 2022. The Orville saison 3, mais saison 1, saison 2 valent.
Oui, ça vaut la peine. On apprend à connaître les personnages.
Il y a des belles critiques de la société.
Ouais, c'est vraiment bien. Ouais, ouais. Saison 3, les pousses. Ils ont un.
Il est intelligent.
Ouais, vraiment beau.
On va passer alors au prochain coup de cœur. Je vais y aller avec Poussin.
Oui, moi, c'est quelque chose qui sort peut-être un peu du lot. J'ai entendu ça par hasard. Je me souviens même plus où. C'est une série sur Netflix. Actuellement, il y a 3 saisons. La dernière date de 2022. Mais il y en a une en 2019. Il y a eu un break en 2020. Puis la saison 2 en 2021. La première saison a 18 épisodes. La saison 2 en a 8. Et l'autre en a 9. La saison 4, s'en vient. Je sais pas quand est-ce, là, mais en tout cas, est signée.
Elle est confirmée.
Ouais, c'est Love, Death and Robots.
Oui.
Oui.
Toutes des petits courts-métrages là, qui c'est du fantastique, horreur, science-fiction, toutes sortes de trucs d'animation là, du 2D, du 3D. À un moment donné, j'en ai écouté un, puis c'est comme j'ai dit, c'est-tu des acteurs ou c'est de l'animation? À un moment donné, j'avais vraiment un doute. T'sais, toutes les façons d'animation sont là, il y a toutes sortes d'affaires, puis c'est vraiment là, des sujets vraiment là, disparates. Là, c'est tout des petits courts-métrages, ça suit pas, quoique des fois il y a des petits personnages, entre autres, il y a 3 robots qu'on revoit une fois par saison. Ces 3 robots-là, c'est drôle parce qu'ils sont comme dans une... en fait, c'est un monde post-apocalyptique, il y a plus aucun humain. Puis là, ben, ils trouvent des objets puis des affaires puis ils se disent « Ça servait à quoi? » »« Ah, ben ça servait à telle affaire. » Puis là, tu te dis « Ouais, comment ça qu'ils pensent comme ça? » Parce que dans le fond, c'est vrai que ça a comme pas de bon sens que nous autres, on utilisait telle chose de telle façon. En tout cas, tu sais, je sens le mot magique, c'est divulgâcher là, dans la critique de Yogi. Fait que pour pas divulgâcher, j'en nommerai pas plus. Mais moi, c'est sérieusement, là, j'ai tombé là-dessus par hasard. Fait que j'ai commencé la saison 1 pour me dire « Je vais commencer par le début. » Finalement, ben en tout, là, à peu près pas loin de 37 épisodes, je me suis clenché ça en à peu près 2-3 jours.
Ah, puis ça s'écoute bien parce que c'est pas des longs épisodes, là.
Non. Des petits courts-métrages de 4-5 minutes, des fois plus.
Celui-là où est-ce que le couple qui achète où ils s'en vont dans un appartement, ils trouvent un frigo, ils regardent ce qu'il y a dedans, puis à chaque jour, ils retournent voir parce que là, il y a comme une espèce de micro-société qui évolue. Puis qu'à un moment donné, finalement, là, ils font une bombe nucléaire, puis là, ils se détruisent, puis ils recommencent à tu sais, c'est comme, c'est toutes des affaires là, qui sont quand même assez spéciales. Il y en a qui sont moins bons que d'autres, évidemment. Côté voix, puis réalisation, il y a tellement de monde que j'en ai pas noté de particulier là, qui sortait du lot ou qui était vraiment extrêmement connu. Mais sinon, c'est ça, c'est pas mal.
C'est une série qui a rapporté beaucoup de prix également.
Oui, je pense que c'est 17 ou 19. Là, je me souviens plus du nombre, là, mais oui.
Ben, en fait, Alexandre avait dû en écouter en devoir.
Oui, ben, quand je faisais mes cours d'animation 3D, il nous faisait écouter cette série-là pour voir les différents styles d'animation qui peuvent être trouvés dans les médias. Puis, vraiment, c'était des beaux exemples d'apprentissage.
Oui, parce qu'il y a vraiment
beaucoup de tout.
Ouais.
Ça varie de l'hyper réaliste à très simpliste, qui est genre deux styles complètement différents, mais qui peut faire un effet différent aussi. Mais les deux sont aussi beaux, peu importe
lequel. Parce que c'est des affaires ben, vraiment, vraiment bien différentes. Là, je parlais, bon, ok, une civilisation qui naît dans le frigo. Après ça, il y en a un autre, c'est. Des gens qui traquent une bête dans la forêt. Il y en a un autre, c'est une astronaute qui est perdue sur une planète, Puis là, par ça, tu sais pas, est-ce qu'elle est rendue folle ou ben elle imagine-tu les affaires ou elle les vit, tu sais. À un moment donné, tu le sais pas. Puis non, sérieusement, tous les épisodes, là, ça varie entre 7 et 22 minutes. Là. C'est vraiment différent. Là. Puis moi, ça a vraiment été... oui, ça date de 2019, mais j'ai découvert en 2022, puis il y avait une saison en 2022.
Ouais.
Fait que...
ouais, puis je pense qu'ils vont continuer encore. Je pense que de mémoire, ils n'ont pas prévu de s'arrêter après la saison 4. De mémoire, ils ont déjà des plans pour une saison 5 et peut-être même une saison 6. Beaucoup de matériel. Moi, j'avais beaucoup aimé l'épisode où les chats avaient conquéri le monde.
Ouais. Ouais, c'est ça, c'est des affaires là, qui sont vraiment spéciales. Là, mais... puis il y en a certains qui font réfléchir. Là.
Oui, oui, en effet. Donc voilà, court, simple.
Yes. Précis. Tu veux-tu les notes ou
ah ben, pas dans c'était ça.
Ben oui, j'ai fait mes devoirs. Fait que sur IMDb, c'est une note de 8.4 sur 10.
Ce qui est très, très, très fort IMDb. Pour IMDb.
Rotten Tomatoes, c'est 85% et l'audience, 80%. Et là, j'ai vérifié si on parle de plus de peut-être c'est 2-3 000 votes. Là. Fait que c'est pas genre 2-3 qui ont aimé ça, puis finalement, ça donne une bonne note. Là.
Donc, c'est vraiment des très, très, très bonnes notes. Et pour l'avoir écouté également, moi aussi, je le recommande fortement sur Netflix, Love, Death and Robots.
Oui, monsieur.
Voilà, c'est ça. Donc, notre deuxième coup de cœur pour 2022. On s'enligne avec un troisième et je vais y aller avec... Maryse!
D'accord. Faut-tu y aller avec absolument les séries ou tout ça?
Non.
Ou on peut,
ton coup de cœur 2022. Est-ce que t'as
aimé? Ben, définitivement, t'as regardé jouer à Horizon.
Horizon Zero Dawn.
Horizon, ouais. Parce que non, j'y ai pas joué, mais j'ai eu un plaisir extraordinaire à regarder Yugi jouer avec dans un univers merveilleusement original, avec des personnages attachants, colorés, comme post-apocalyptiques, mais en même temps tellement tribal. C'est... Ouais, j'ai adoré le souci du détail aussi, de pouvoir revoir des villes qui sont englouties.
Dans Forbidden West, toute la partie de Las Vegas. Hein.
Ah, c'est impressionnant, là. Tu fais, mais mon Dieu, la recherche derrière tout ça, les créatures aussi qu'on rencontre, là, les espèces de dinosaures slash robots qui se promènent. Il y a tellement une belle originalité dans la création. On n'est pas sur un seul modèle et on grossit et on rapetisse le modèle comme un certain film avec des bonhommes bleus. non, il y a une grande queue. Eux autres, ils n'ont pas juste un petit mignon de queue pour le schtroumpf gnac-gnac.
On va le nommer Avatar.
Oui, Avatar. Ah. Fait que c'est ça. Faut savoir que moi, Avatar, ça, puis du vomi, je pense que je vais choisir le vomi.
Oh bon.
Comme dirait M. Thon, entre ça, manger de la litière à chaud.
Tu manges de la litière à chaud.
Ouais, ah, oui. Ah oui, ah oui, ah oui.
Et les critiques sont mauvaises d'ailleurs pour le deuxième.
Ah oui?
Way of the Water, les critiques sont sorties et c'est des critiques de visuellement magnifiques, technique de tournage extraordinaire et révolutionnaire, une musique magnifique, une histoire longue et très ennuyante.
Le film dure 3h20.
Voilà.
Ça doit être dur de faire du stock pertinent pendant 3 heures de temps.
Ouais. C'était déjà même pas pertinent dans le premier parce que c'était les aventures de Fern Gully. Fait que...
voilà.
Fait que... Le nom de Avatar a été volé à Avatar The Last Airbender parce qu'il n'y avait pas de copyright à l'époque.
Ah.
Donc, ils ont juste volé le nom et ils ont fait leur propre série avec. Fun fact.
Parenthèse.
Oui.
Clos.
C'est ça, exact. Donc, c'est ça, des créatures merveilleuses qu'il y en a certaines que tu peux apprendre à dresser. J'ai trouvé ça merveilleux que tu les dresses pas toutes de la même façon. Ils feront pas toutes la même affaire. Ils vont toutes t'aider pseudo à leur façon.
Il y en a qui vont attaquer, il y en a qui vont juste chasser leur proie, puis il y en a d'autres qui vont juste...
Ah, puis
être là pour te transporter.
Les points visuels, je veux dire, tu as juste envie des fois d'arrêter de jouer puis de faire avec la caméra le tour du décor.
Ce que j'ai fait quelques fois.
Le souci de tout ça est magique, magique. Je dirais que pour quelqu'un qui n'a pas joué, qui a juste regardé, j'avais l'impression d'assister à un très, 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 très bon film. Ouais. littéralement, parce que t'es accroché à l'histoire du début jusqu'à la fin. Même au travers des combats, même t'es accro à l'histoire, ce qui fait que lorsque Yugi m'est arrivé avec le deuxième, c'est comme... Je l'aurais binge-watché, certains, donc je l'aurais lavé au bain.
Tu l'aurais lavé au bin?
Je l'aurais, patate de divan, là, jusqu'au bout. Et je pense que c'est à peu près un des seuls jeux aussi que je suis pas tombée endormie pendant que tu joues.
En effet, je confirme.
Fait que tu sais, ça, c'est vraiment un très, très, très bon signe que mon attention est là jusqu'à la fin. Là. Fait
l'histoire que... était super bien construite du début à la fin du deuxième.
Ben, c'est ça, on sent qu'on savait déjà le fil conducteur du début jusqu'à la fin. C'est pas quelque chose qu'on a garoché. Ah, oh, mon Dieu, il faut faire okay, un non, deux. Qu'est-ce qu'on fait exactement? On sent que tout était prêt, un peu comme How to Train Your Dragon.
Mm-hmm.
Tu le sens que le 1, le 2, le 3 étaient pensés. Que c'était fait vraiment pour se suivre et non pas « Ah, le 1 a pogné, on va faire un 2. » Ça va être la même histoire, mais dans l'autre sens.
Ouais.
Ce que la majorité des suites font. T'sais, on prend la même histoire, mais on la met dans l'autre sens. Fait que... Moi, ça a été... un pur, pur plaisir, là.
Personnage super attachant également. Oh. Le personnage d'Eloy au début, moi, pour moi, quand j'ai commencé à jouer, j'étais comme pas super certain de l'histoire. Je trouvais que t'avais comme pas d'informations, mais justement, plus t'avances dans l'histoire, plus tu découvres des petits indices cachés ici et là de qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui a amené le monde à devenir ce qu'il est. Là, t'as envie d'aller chercher encore d'autres indices puis de voir comme, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il s'est passé ça! Ah, wow! Et là, plus tu avances dans le jeu, plus tu montes toute ta quantité d'indices, tu montes l'histoire et là, tu découvres pourquoi c'est rendu ça. C'était juste un wow!
Puis c'était intelligent.
C'était super intelligent
du début jusqu'à la fin.
Assez intelligent pour en faire une série télé, Netflix, qui s'en vient prochainement.
Pour vrai?
Peut-être pas en 2023, peut-être en 2024. Okay. Et ça a été confirmé que ça va être une série sur comment ils se sont rendus là.
OK. Oh, wow.
Donc, toute l'historique de comment les événements se sont enchaînés pour arriver au moment crucial de l'apocalypse, entre guillemets.
Mm-hmm.
Donc, la série télé est confirmée. C'est Netflix qui le produit. Donc, moi, j'ai très hâte. Du fait que la série n'est pas... On prend le jeu vidéo et on le refait à l'écran, comme ils vont faire par exemple avec God of War. Mais de vraiment de prendre le jeu est fait, comment ça s'est rendu là. Donc la série, ça va être ça. Donc pour moi, ça, je trouve ça super intéressant.
Oui, puis tu sais, comme auteur, pour aimer moi-même écrire beaucoup d'histoires, c'est le fun en tant qu'auteur de pouvoir faire... J'ai sous-entendu ça, mais là, je peux le travailler.
Ouais.
Tu sais, mon sous-entendu, je peux maintenant vraiment m'y appliquer.
Ouais.
Puis j'ai l'impression que ça va juste donner encore plus de force.
C'est sûr.
À tout ça.
C'est sûr.
C'est... Fait que j'attends ça avec grand délice.
Et pour ceux qui ont le jeu présentement à la maison ou qui pensent peut-être se l'acheter, il y a un nouveau DLC qui va sortir. DLC pour...
Downloadable Content.
Merci. Pour Forbidden West, DLC qui va se passer, si ma mémoire... Ah, j'ai oublié la ville. Je pense que c'est Hollywood.
Non, je pensais Rouyn-Noranda.
Non, le DLC se passe à ce moment-là à Hollywood, donc ça continue les aventures. Je sais pas où ça va fitter dans l'histoire du jeu, mais le contenu téléchargeable sort très prochainement sur Hollywood pour Horizon Forbidden West. Coup de cœur de Maryse pour 2022. Merci beaucoup, Maryse, pour ce coup de cœur fantastique.
Petite parenthèse, Yugi, tu peux-tu me dire, je suis pas un grand joueur de jeux vidéo, c'est quel genre? C'est-tu un open world?
C'est un open world action adventure.
Final Fantasy?
Non, pas la Final Fantasy. Ça, c'est vraiment du RPG, c'est vraiment du role-playing game. C'est vraiment plus comme Assassin's Creed, mélangé peut-être avec un peu de Uncharted, Tomb Raider. C'est un jeu à la troisième personne, avec une vue derrière la personne, et tu te promènes, et tu te bats, et tu t'interagis avec le monde, t'as un paquet de side quests à faire, tu trouves des systèmes, tu construis tes armes,
Est-ce que comme... Je vais pas jouer, là.
je l'ai vu, mais est-ce que comme Tomb Raider, t'as une ligne, t'as un couloir-ish avec
non.
quelques...
Non, c'est ça. C'est la différence c'est qu'on world. Fait. C'est vraiment okay. open world. T'sais, je veux dire, l'open world n'est pas gigantesque, non. mais il est quand même très, très grand. Un petit peu comme les premières maps de Assassin's Creed, okay. genre, disons Black Flag à peu près.
Oui.
Ça ressemble à peu près à cette grandeur de map-là.
Mais avec moins de bateaux.
Avec beaucoup moins de bateaux.
Moins de bateaux, mais beaucoup de dinosaures.
Oui, mais Black Flag, je n'étais plus capable.
Ah, moi aussi, j'ai décroché rendu là.
Elle est beaucoup de navigation.
Hey, j'aurais le mal de mer à jouer au jeu.
Moi, j'avais du plaisir avec les petits shanties quand ils chantaient.
C'est celui qu'il faut dire parenthèse clos. Ou...
Ah. Ben, c'est la parenthèse okay. clos, oui, tu okay, peux dire d'accord. parenthèse clos. donc voilà, un autre coup de cœur pour vous, mesdames et messieurs. On passe à notre autre coup de cœur. Alexandre. Je me garde pour la fin.
Parlant de pirates, en fait, moi, mon coup de cœur de l'année, c'est une série tournant au 18e siècle, dans les années 1717, qui s'appelle Our Flag Means Death, ou Le Gentleman Pirate, en français. Donc, une horrible traduction.
C'est un changement.
Ben oui. Ça a rapport parce que c'est l'histoire de Steve Bonnet, qui est... selon l'histoire, le gentleman pirate qui a réellement existé, qui se tanne de sa vie de luxe en tant que monarque, là,
mm-hmm.
et décide de se lancer dans la piraterie. Mais il est pas bon pour deux scènes. Donc, il se ramasse avec sa petite équipe d'autant mauvais que lui, qui font le tour sur leur bateau, dans lui, sa cabine de pirate, il y a une librairie, il y a un foyer. On sait pas comment ça s'est rendu là, mais c'est l'univers est vraiment bien amené, qu'il y a des éléments historiques au travers de l'humour. Puis ça a été dirigé par Taika Waititi,
mm-hmm.
qui a fait Thor Love and Thunder, Ragnarok,
mm-hmm.
et aussi, ce que j'ai vu, Jojo Rabbit.
Ouais, c'est ouais. extraordinaire.
C'est lui qui a dirigé ça aussi.
Tellement bon.
Et il joue dans sa série,
of course.
Comme d'habitude, et il joue Blackbeard, donc le deuxième okay. personnage okay. principal. Puis sa version de Barbe Noire est vraiment hot. il est vraiment drôle. C'est autant de... l'aspect historique des trucs que la Barbe Noire faisait pour faire peur à ses ennemis que de mettre de la fumée dans sa barbe, puis tout l'aspect que les autres ont tellement peur de lui, mais dans la série, il est approché comme un personnage très, comme, awkward. Il est un peu confiant, mais il est comme un peu... il est pas nécessairement réservé, mais... c'est ça, là. Le ça mot arrive. Que je cherche. Fait que, ouais, c'est... Moi, j'ai trouvé ça excellent. Ça a 10 épisodes, si je me trompe pas,
okay.
qui est de 45 minutes chaque. Ça s'écoute honnêtement vraiment bien.
Je sur pense quelle plateforme?
Hein?
Sur quelle plateforme?
Sur Crave.
OK.
Donc, produit par HBO Max.
Mm-hmm.
Qui, en général, la série a eu des excellents reviews au point qu'ils ont annoncé une deuxième saison et confirmée. Et je crois qu'elle est en... que le tournage vient de finir. Donc, elle devrait sortir bientôt.
Au courant 2023.
Ouais, au courant 2023, ça c'est sûr. Il n'y a pas de date annoncée par contre. Mais des reviews de 94 sur Rotten Tomatoes.
Quand même.
Et 7.8 sur IMDb. Donc, quand même haut pour une série sur des pirates qui qui sont pas bons à être des pirates.
Ouais,
Est-ce que c'est plus... fantasy ou est-ce qu'ils sont vraiment allés un petit peu plus en, pour prendre le terme anglais, historically accurate?
Non, c'est vraiment, c'est plus historique.
Okay.
Y a pas de technologie qu'il y avait pas à l'époque présentée dans la série. Tout est vraiment arrangé comme ce qu'ils pouvaient avoir à cette époque-là. C'est sûr que des fois, y a quelques petites affaires qu'ils pouvaient bypass. Mais tu sais, ils parlent de du scorbut, parce que là, à un moment donné, ils n'ont plus d'oranges. Fait qu'il faut qu'elle cherche des oranges, parce qu'il y en a un qui a le scorbut.
Puis... Et est-ce qu'il pognait le scorbut parce qu'il n'y avait plus d'oranges?
Oui.
Ouais.
Ah, okay. Vitamine C.
Ouais, ah, ça, bien vitamine oui. C. Of course.
Parce qu'il fallait qu'il fasse un gâteau avec 40 oranges, fait qu'ils ont passé toutes les oranges. C'est ça la raison.
Fait comme ça, C'est comme ça qu'a été inventé le gin tonic. Parce que les hommes devaient boire le jus de lime et trouvaient pas ça bon. Et le tonic, on n'aimait pas ça non plus. Puis m'en donnant de demander à ce que ça soit mélangé. Et on a comme créé les premiers cocktails comme ça à bord des navires pour essayer de faire prendre les médications aux pirates et aux soldats et qu'importe, qu'on appelait les limiers à ce moment-là à cause de la consommation exagérée de lime. Et ça a donné lieu aux drinks qu'on peut connaître aujourd'hui. Parce que lorsque eux autres arrivaient dans les tavernes, ben là, ils voulaient plus juste avoir l'eau de vie ou les affaires de même. Ils voulaient avoir les recettes qu'il y avait à bord du navire. Fait que là, les autres, ils se mettaient à parler des recettes. Puis à un moment donné, ben, ah ben nous autres, notre recette à bord du navire. Et là, nous autres, notre recette. Et là, ça a vraiment fait naître les drinks. Mmh. Et entre autres, le gin drink.
Miam! Mmh. J'ai soif.
Veux-tu un verre d'eau, Yugi?
Non, j'ai un gin tonic.
T'as-tu l'impression d'avoir le scorbut?
Non, par contre, non, ça va, je pense. Autre chose à dire?
Ben moi, j'ai trouvé que tous les personnages sont attachants. Qu'il y en a pas un que je me disais comme, ouais, lui, il est poche. Ils ont vraiment toute une personnalité différente. Même, il y a deux, trois méchants au travers qui ont autant de personnalité que la gang de, ben, quote-unquote, gentils, même si c'est très neutre. C'est des pirates. Il y en a pas un qui est bon, un qui est mauvais, vraiment, là. Mais tous les personnages sont attachants. La série, il y a pas un épisode que je me suis dit, ouais, celui-là, il aurait pu pas le faire. Chaque épisode était excellent. Puis, honnêtement, je le réécouterais encore. C'est... Pour moi, réécouter une série, pas tout le temps. À part quelques films que je réécoute souvent, je réécoute pas beaucoup de choses, mais ça, je le réécouterai au complet plusieurs fois.
OK.
Ça a été honnêtement mon coup de cœur de l'année à écouter.
On rappelle le titre?
Our Flag Means Death.
Our Flag Means Death sur Crave. Donc, votre...
Parle pas de même.
Tu sais? Marie s'est pris un shooter.
Un shooter de Céline.
Donc, votre 1, 2, 3, 4, quatrième coup de cœur pour 2022. On aligne avec le cinquième coup de cœur qui est le mien. Et contrairement à toi, Bedu, moi j'avais plusieurs choix à aller piger dedans. Il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai aimées en matière de films, de séries ou de jeux. Horizon en faisait partie, God of War en fait partie également.
J'ai pas joué encore.
Mais c'est peut-être pour ça qu'il fait partie des coups de cœur.
Mais ça achève, là, t'es aveugle de le platine.
C'est quasiment fini, en effet. Je suis donc allé puiser dans ma réserve Guerre des étoiles. Une série qui est étrangement pas aimée par tout le monde.
The Book of Boba Fett?
Non. Non, ça, je rentrerais peut-être plus le côté citronné.
Ah. Oh.
Ouais, bah, c'est pas tout à fait un citron. Tu sais, il est borderline citron.
Ah, mettons clémentine.
Ouais, peut-être.
Non, je dirais citronnelle.
Citronnelle, ah, c'est bien ça.
Je dirais, il est un peu zesté.
Oh, un petit peu zesté, d'accord. On a un petit peu de tout pour Boba Fett. Mais non, je parle de la série Andor.
Il est beaucoup d'accord.
Qui n'endort pas. Je vais sortir. Andor, A-N-D-O-R, disponible sur Disney+. J'ai déjà parlé de cette série dans une critique précédente. Ça suit les aventures de Cassian Andor, qui est l'un des rebelles que l'on voit dans le film Star Wars, La Guerre des Étoiles.
Rogue One.
Qui précède l'épisode 4, dont je vais dire tout le monde, mais c'est pas tout le monde, parce que je pense que certaines personnes autour de la table qui n'ont pas vu aucun de ces films-là, mais qui précède le film épisode 4, A New Hope. Voilà, je cherchais le titre. Donc, l'épisode où on a connu Luke et Leia et Han Solo. Donc, Rogue One se passe avant, se termine juste au moment où... Ben, je dis juste, c'est pas tout à fait juste, mais c'est très proche du moment où l'épisode 4 commence. Donc, Cassian Andor fait partie de ces rebelles-là. Les rebelles qui ont volé les plans de l'Étoile de la Mort. Et Rogue One raconte justement comment ils ont volé les plans. La série Andor parle donc du personnage Cassian Andor et comment qu'il a intégré la rébellion. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvaises critiques. Je suis allé lire ces critiques-là et je comprends pourquoi ces gens-là n'ont pas aimé la série. C'est des gens qui ont adoré la trilogie prequel de La Guerre des Étoiles, donc l'épisode 1, 2 et 3. Et c'est des gens qui aiment Star Wars. Voilà, j'ai la même raison que de Bedu qui allait se cogner la tête contre le bord de table.
Le seul Star Wars que j'ai écouté, c'est celui-là avec Adam quelque chose qui fait le méchant.
Ça c'est la trilogie sequel.
Ouais, ben c'est ça, c'est sûr que j'ai écouté.
La trilogie prequel, c'était avec Jar Jar Binks. Ouf. Mais c'est ça, les critiques que j'ai lues, c'est des gens qui ont adoré ces épisodes-là parce que c'était énormément d'action, c'était énormément de fluff, c'était gros visuel, beaucoup d'effets spéciaux, et pour eux, la guerre des étoiles, c'est ça. Donc, avec Andor, on sort complètement de ça. On tombe vraiment dans une série beaucoup plus politico-sociale. Des effets spéciaux très minimes. On en voit quelques-uns pour les quelques scènes dans l'espace. Quelques scènes avec des vaisseaux de l'Empire. Mais c'est très, il y a très très peu d'effets spéciaux dans la série Andor. Et il y a beaucoup moins d'action également. Quelques épisodes avec beaucoup d'action. Particulièrement l'épisode 2, particulièrement il y a un épisode central et le dernier épisode où là c'est vraiment là que toute l'action se passe, mais c'est vraiment beaucoup plus concentré sur le côté politique de l'Empire et de ce que l'univers vit par rapport à l'Empire. Beaucoup de personnages super intéressants. Celui qui est joué par... c'est quoi son nom? Peter Skarsgård, je sais pas si c'est ça, mais j'ai ça ici. Si ma page va reloader. Ma page a reloadé. Fantastique, on trouve les acteurs. Stellan Skarsgård, qui joue le rôle de Luton, qui est un personnage tellement mystérieux durant toute la série. C'est le personnage qui va chercher Cassian Andor, mais qui a aussi une boutique sur Coruscant. Et il y a tellement de Easter Egg dans cette boutique-là, tellement d'items qu'un homme normal dans cet univers-là ne devrait pas posséder. Ceux qui ont l'œil de lynx vont remarquer deux holocrons. Et pour ceux qui connaissent l'histoire La Guerre des Étoiles, savent que les holocrons, c'est un item de communication entre Jedi et entre Sith. Donc, l'holocron Jedi et l'holocron Sith. Et dans sa boutique, il y a un holocron Jedi et il y a un holocron Sith. Comment diable qu'il a fait pour mettre la main sur ces items-là? Moi, ça me dépasse complètement. Donc, ce personnage-là, pour moi, qui est un fan de la Case Étoile, est super mystérieux. Et je me pose beaucoup de questions sur lui. Et j'ai tellement hâte à la saison 2 pour voir le personnage se développer encore plus. Le personnage de Mon Mothma, qui devient éventuellement la leader maîtresse de la rébellion. De voir son ascension, de voir comment dans la série il est pris justement dans cet univers politique-là de l'Empire qui écrase la population, puis elle qui veut juste essayer d'aider le monde puis de sortir de là. Je trouve que au niveau scénario, c'est beaucoup mieux écrit, il y a beaucoup plus de contenu que tout ce qu'on a eu présentement avec les autres séries Star Wars ou tous les films de Star Wars également. J'ai un collègue qui vient de s'abonner à Disney+, qui a tout de suite commencé Andor, qui a adoré, et qui a ensuite commencé Le Mandalorian, qui est une très très bonne série, et qui m'a dit « Ouais, j'ai comme moins aimé Mandalorian. » Puis j'ai comme répondu « Si t'avais écouté Mandalorian avant, t'aurais adoré Le Mandalorian, puis t'aurais écouté Andor, puis t'aurais encore plus aimé Andor. » Mais là, t'es comme écouté à l'envers. Fait que t'as comme mis la barre hyper haute tant qu'à moi, puis là tu tombes sur Mandalorian qui est quand même une très bonne série, et là tu trouves ça un petit peu moins bon parce que justement ta barre est beaucoup trop haute présentement avec Andor.
Une chance qu'il n'a pas écouté Boba Fett.
Une chance qu'il n'a pas écouté Boba Fett, et je lui ai conseillé d'ailleurs de ne pas l'écouter, à moins d'être vraiment super très intéressé à Boba Fett. Donc pour moi, Andor, mettons ta vedette Diego Luna, qui joue le rôle de Cassian Andor, et mon coup de cœur, j'ai adoré cette série-là. J'avais tellement hâte à chaque semaine que le nouvel épisode sorte. Et je n'ai jamais été déçu par aucun épisode. Non, c'est pas vrai. Il y a un épisode que j'ai trouvé un petit peu plus tranquille. Mais c'est le seul à travers toutes les 12 épisodes.
Mais chaque... c'est la critique que j'ai eue que c'était long avant que ça starte sur les premiers épisodes.
Ben, c'est parce qu'il y a tellement de choses à mettre en place que oui, c'est peut-être un petit peu long à starter, mais de toute façon, comme je disais, c'est pas une série d'action.
Ouais.
C'est vraiment une série beaucoup plus politique, donc c'est sûr que c'est peut-être un petit peu, le rythme est beaucoup plus lent de ce qu'on s'est habitué à la Guerre des Étoiles.
Ben, c'est ça, on s'attend à ce qu'il y ait de l'action dans la Guerre des Étoiles, alors que c'est...
Exactement.
Ben, c'est pas tout le temps le cas, il n'y a pas tout le temps de la guerre.
Hein. Exactement, donc c'est pour ça que beaucoup de monde n'ont pas aimé à cause de ça, ils s'attendent tellement à ce que ça parte tout de suite avec beaucoup d'action, puis que ça court, puis que ça tire, puis piou, 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 piou. Alors que c'est pas le cas du tout, c'est vraiment une mise en place, c'est vraiment nous expliquer comment la rébellion s'est construite. Moi, j'ai adoré la série, je trouve que c'est super bien écrit, c'est bien construit. Et je le recommande encore une fois à tous. Si vous êtes des amateurs de la Guerre des Étoiles, écoutez Andor, ça vaut vraiment beaucoup la peine.
C'est une joke de Stormtrooper.
Ben oui donc.
C'est deux Stormtroopers qui parlent, et l'un il dit à l'autre, ouais, ma femme m'a quitté hier, puis là, quand elle est partie, elle a claqué la porte, puis juste avant de claquer la porte, elle dit, tu vas me manquer.
Je la trouve très drôle. Pour nos auditeurs qui ne comprennent pas présentement, c'est parce que vous n'êtes pas des amateurs de la Guerre des Étoiles que vous ne comprenez pas, parce que les Stormtroopers manquent toujours leur cible, ou du moins très fréquemment. Donc voilà, ce fut quand même court comme épisode mensuel, mais un épisode quand même avec beaucoup de contenu. On a parlé de 5 très bons coups de cœur de l'année 2022. En espérant vous avoir donné le goût d'aller écouter ce dont on a parlé ou d'aller jouer à ce dont on a parlé également. Un gros, gros, gros merci à tout le monde autour de la table présentement. Ali, Maryse, Bedu, Poussin, merci d'avoir été là pour cet épisode-ci.
Ça fait plaisir.
On commence donc l'année 2023. Tout le mois de janvier, on aura des capsules express pour vous comme à l'habitude, sans nécessairement avoir de thématique cette fois-ci. Par contre, le mois prochain, on a une très belle thématique qui risque d'être pénible à écouter parce que le mois de février est le mois de la Saint-Valentin. C'est oui. Le mois de l'amour. Donc, on consacre tout le mois à des films romantiques, des comédies romantiques ou des drames romantiques ou peu importe.
Ouais, parfait.
Ça risque d'être un peu difficile pour nous tous d'écouter ces films-là pour vous, ces séries-là pour vous, mais écoute, on se sacrifie.
Ouais, écoute.
Et dans le pire des cas, on va vous parler de films à éviter.
Falling for Christmas?
Non, ça c'était pour Noël,
on n'en parle plus. Mais c'est romantique.
Mais c'était pour Noël, on n'en parle plus.
Ok.
C'est fini. C'était d'ailleurs un de nos citrons. Donc voilà, mois de février qui sera consacré à l'amour. Et mois de mars, on se lance vers une thématique internationale avec Maryse qui sera ma co-host pour l'épisode du 1er mars dont on va vous parler de films ou de séries télé style international, donc européen.
Indien.
Indien, voilà, c'est l'autre que je cherchais.
Un portugais.
Voilà.
Voyons, catalan, puis un français.
Et voilà, donc épisode international pour le mois de mars. Et ensuite, le mois d'avril. C'est-tu le mois d'avril? Je crois que c'est le mois d'avril. Épisode Zelda.
Poisson!
C'est pas le mois de mai?
C'est le mois de mai, hein, Zelda? C'est le mois de mai. Mois de mai, Zelda. Mois d'avril.
Poisson!
Thématique poisson. On va parler de films, mais on va se trouver des films puis des séries télé qui parlent de poissons.
Oh, c'est marrant!
Yes. Bref, suivez-nous sur notre page Facebook, La Critique de Yugi, pour justement voir tout ce qui s'en vient et également savoir en premier lieu quel épisode sort et sur quelle plateforme. Donc là-dessus, un gros merci à tous d'avoir été à l'écoute pour cet épisode. Merci à tout le monde autour de la table pour s'être joint à nous pour ces coups de cœur. Et on se revoit la semaine prochaine pour une capsule express des critiques de Yugi. Ciao tout le monde, merci d'avoir été là. Bye!